Alors, on va aller dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37. Je vais vraiment vite lire, parce qu'il est midi, les 10 premiers versets. Donc, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux, à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, Ézéchiel, fils d'homme, ces os pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces os. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'il y eut un frémissement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux, la chair se mit à pousser et la peau les recouvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, encore, prophétise, et encore parle à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Amen. Donc j'ai juste une question ce matin. Combien d'entre vous, vous pouvez vous identifier à Ézéchiel ? C'est-à-dire que vous êtes devant une situation dans votre vie ou des circonstances qui sont comme des ossements desséchés. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous ? Alors ça peut être très varié. C'est une situation ou c'est quelque chose. Il y a quelques mains qui se lèvent, hein, et peut-être d'autres qui... Et vous êtes dans un sentiment de désespoir ou dans un sentiment d'impuissance devant cette situation dans votre vie, devant ces circonstances dans votre vie. Et c'est comme un tas d'ossements desséchés. Et ce n'est même pas un corps. Ça aurait pu être un corps qui est mort. Vous savez, un corps, il a encore potentiellement la chair, il a tout. Mais c'est des ossements desséchés. C'est-à-dire, il n'est même pas dit c'est un corps d'os, c'est des ossements. Et à la fin, on apprend que c'est une armée. Ce qui veut dire qu'on ne savait pas si c'était le fémur d'une femme, si c'était le coccyx d'un homme, si c'était l'omoplate d'un enfant. Donc c'est vraiment des ossements desséchés. Il y en a beaucoup. Et là, Ézéchiel, quand il voit ça, il se sent dans les mêmes sentiments qu'on peut se sentir, désespéré et impuissant. Donc on va un peu resituer... ce contexte, le cheminement d'Ézéchiel. Donc Ézéchiel, il a commencé son ministère comme un grand prophète pour les nations. Et puis à un moment donné, Dieu lui dit, je vais te donner un cadeau. Alors Ézéchiel, il est super content, il dit, c'est une promotion, c'est super, c'est super. Donc Dieu le prend par la main et il est super excité. Vous savez, quand Dieu nous dit, je vais te donner plus, je vais te donner un cadeau, on se dit, c'est toujours mieux, c'est toujours plus. Waouh, alors ils partent tous les deux. Il se dit, peut-être Dieu va me donner une super église facile, les gens les plus en feu, enfin bref, des super visions. Et puis, ils sont partis, côte à côte, tous les deux, comme des amis. Et puis, ils regardaient la nature, elle était très belle. Et puis, Ézéchiel, il s'est dit, waouh, mon ministère, il va être dans un super endroit. Cette vallée, elle est belle, elle est verte. J'ai jamais vu un endroit, j'aurais même pas pu espérer un endroit comme ça pour faire mon ministère. Une super vallée toute verte. Il était content. Et puis, ils ont marché. Et là, dans cette belle vallée, il y avait un grand tas d'os secs. Et Dieu lui dit, on s'arrête, c'est ici, Ézéchiel. Et là, waouh, déception. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Je croyais que c'était une promotion et tu me donnes un tas d'os desséchés. Et je repose la question, combien d'entre vous, vous êtes devant un tas d'os desséchés aujourd'hui ? Ou dans cette saison de votre vie ? Et c'est comme si vous attendiez quelque chose de « Waouh, c'est super la vallée !» Et puis, il y a des eaux. Donc, Ézéchiel, il est passé par là. Et dans cette situation, que fait Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Dieu lui pose une question. Au verset 3, Dieu lui pose une question et il lui dit « Ézéchiel, toi, le prophète, le grand prophète, que penses-tu de ça ? Est-ce que tu penses, je veux savoir, est-ce que tu penses que ces eaux, ils peuvent revivre ? Et vous savez, Dieu a toutes les réponses. Est-ce que vous croyez que Dieu avait besoin de savoir ce qu'Ézéchiel pensait spécialement ? Dieu est Dieu. Mais il a toutes les réponses, il connaît tout, mais il a toujours une question. Il aime nous poser une question. Et dans cette situation de ta vie, comme à Ézéchiel, il te pose la question ce matin. Qu'est-ce que tu penses que ces eaux, cette situation qui paraît morte dans ta vie, elle peut revivre ? Il te pose cette question. Et il veut savoir ce que toi tu penses de cette situation désespérée. Est-ce que tu vois dans cette situation ? Est-ce que tu crois qu'il peut faire toute chose, l'impossible ? Est-ce que tu crois que ces eaux secs peuvent revenir à la vie dans ta situation ? Et moi, je crois qu'actuellement, Dieu, c'est le temps aujourd'hui pour que les ossements secs reviennent à la vie. Et Dieu veut vraiment nous donner une clé aujourd'hui pour qu'on sache comment traverser cette saison. Et comment on peut, il veut nous montrer au travers de ce qu'il a enseigné à Ézéchiel, comment ces situations peuvent revenir à la vie dans nos vies et dans nos familles. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que ces eaux secs, un jour ils avaient la vie, puisque Dieu dit, est-ce qu'ils peuvent revivre ? C'est pas ce qu'ils peuvent vivre. Et Dieu va ramener la vie une fois de plus, il veut ramener la vie. Mais il a besoin d'hommes, il a besoin de femmes qui croient pas juste que c'est possible, mais qui le croient, lui, plus que toute autre chose. Et ce matin, Donna, tu disais que Dieu t'a donné une parole comme une promesse, tu l'as proclamée, ça a changé la réalité. Et Dieu veut qu'on le croie plus, lui, que la situation dans laquelle elle est. C'est pas juste, est-ce que tu crois que je peux le faire ? Parce que ça, on va tous dire, oui, je crois que tu peux ressusciter les morts. Mais c'est, est-ce que tu crois Dieu plus que ce que ta situation te dit ? Et c'est ce qu'il a demandé à Ézéchiel. Est-ce que tu crois ? Est-ce que tu me crois ? Est-ce que tu me crois ? Et si tu crois Dieu, plus que la réalité, et je dis souvent la réalité, c'est souvent pas la vérité. Il faut faire attention. La réalité, c'est une image de quelque chose à un état. Mais la vérité, c'est ce que dit Dieu sur cette chose. Alors des fois, la vérité et la réalité sont les mêmes, mais souvent la réalité n'est pas la vérité. Donc Dieu, il a besoin de ta coopération, comme il a eu besoin de la coopération d'Ézéchiel. Et que tu sois d'accord avec lui et dans une même pensée et une même vision que lui. Et là, il va le faire. Crois-tu que tes eaux desséchées peuvent revenir à la vie ? Peut-être que tu peux, sur ces eaux desséchées, tu as une situation qui est précise, qui te concerne. Crois-tu que la France peut revenir à la vie dans sa destinée ? Crois-tu que les politiciens français vont revenir à la vie ? Crois-tu que des miracles peuvent se passer ? Crois-tu que ton mariage ou que tes relations elles peuvent changer ? Crois-tu que tes enfants qui se sont éloignés peuvent revenir à la vie ? Crois-tu que tes affaires, ton business, ton boulot peut venir à la vie ? Crois-tu que ton membre malade peut venir à la vie ? Crois-tu que ton compte en banque peut revenir à la vie aujourd'hui ? Tu le crois ? Yes, je le crois. Alors, Ézéchiel, il a commencé à faire ce que Dieu lui a ordonné. Et c'est important, quand Dieu dit quelque chose, c'est important pas juste d'écouter, mais de commencer à faire. Alors Ézéchiel, il a commencé à faire ce que Dieu lui a ordonné face à cette situation impossible. Et il a commencé à parler. Voilà la clé. Donc le premier stade pour arriver au deuxième, c'est que je dois croire. Je dois croire qui ? Dieu plus que ma situation. Une fois que je crois ça, comme Ézéchiel, on peut entrer dans la deuxième étape. La deuxième étape, c'est il a commencé à parler, à prophétiser, a soufflé le souffle de Dieu, le souffle de vie de Dieu sur ses eaux, sur la situation. Alors, comment il l'a fait ? Est-ce qu'il a dit « Oh, regarde, c'est pas très joli, Jésus. Est-ce que tu peux essayer de venir ? Est-ce que tu peux essayer de changer ça ? Est-ce que la vie peut essayer de sortir de ça, s'il te plaît, Jésus ? » Est-ce qu'il a fait ça, Ézéchiel ? Non. Ézéchiel, il a prophétisé. Il a dit, il s'est adressé aux ossements desséchés. « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Et prophétiser, ce n'est pas seulement prédire l'avenir. Prophétiser, c'est parler avec autorité et conviction la parole de Dieu dans une situation, dans nos circonstances, dans la réalité qui n'est pas la vérité de Dieu, même si cette réalité dit le contraire. Amen. Donc prophétiser, c'est parler avec hardiesse, c'est pas demander. C'est parler avec foi, par la foi. C'est parler avec une vision dans le cœur. C'est parler avec la perspective de Dieu sur ta situation. Et prophétiser, c'est parler ce qui n'existe pas encore à l'existence. Vous pouvez répéter ? Prophétiser, c'est parler ce qui n'existe pas encore à l'existence. Donc, c'est important qu'on arrête de murmurer. C'est important. Vito dit, il a été dans la nature, il a commencé à prophétiser. Moi, j'ai des témoignages aussi où j'ai parlé au temps, aux nuages, et ils se sont arrêtés. Où on a parlé sur des membres, et il faut commencer à parler. On ne doit pas commencer à quémander. On doit commencer à prophétiser la parole de Dieu. Que ce soit le Réma ou que ce soit le Logos. Que ce soit la parole que le Saint-Esprit nous donne sur le moment, comme a donné ce matin, ou que ce soit simplement la parole de Dieu et la parler sur les circonstances, la parler sur ta terre, la parler sur tes enfants, la parler dans ta situation, la parler sur ton corps. Ok, mon corps, tu es malade, tu as mal, mais tu as été guéri. Sois guéri. Sois guéri, aligne-toi avec ce qui a été fait. Donc, sois ferme, sois fort, relève tes épaules, ouvre ta bouche, aie du courage dans ton cœur et commence à parler. Amen. Pas à demander à Dieu. Commence à parler. Tu as la parole de Dieu. Commence à parler la parole de Dieu. Et c'est super ce qu'on fait dans la tente de la rencontre, de parler la parole. Des fois, on a aussi compris, c'est puissant que si c'est la parole réma de Dieu, mais la parole de Dieu, elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace. Et quand on la parle sur une situation, ok, j'ai pas de finances. Mais, ça c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc, est-ce que je vais laisser cette réalité me tirer vers le bas ou est-ce que je vais commencer à prophétiser ? Ok, mon compte, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc Ézéchiel l'a fait une fois, bref. Et puis, ça n'a pas vraiment marché entièrement. Donc, il a dit qu'il continuait à prophétiser comme Dieu lui avait demandé. Il a continué à prophétiser. Et ça, c'est important aussi. Je veux vraiment nous encourager ce matin, quand on commence quelque chose, on ne s'arrête pas tant qu'on n'est pas arrivé au bout. Et là, vous verrez, il y a 4 étapes. Il a passé la première, il y a la deuxième. Mais tant que la deuxième, on n'a pas été au bout, on ne va pas à la troisième. Et c'est important. Il est dit qu'il a été jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Alors dans la Bible, ça paraît toujours très simple, parce qu'on a l'impression qu'en un verset, ça a été une minute. Mais on ne sait pas combien de temps Ézéchiel il a prophétisé. Peut-être qu'il est resté des mois là, à prophétiser sur ses ossements. Nous, on a l'impression qu'il a dit « Ok, ossements desséchés, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- réalité. Je crois qu'il a peut-être prophétisé et parlé. Peut-être qu'il y a des gens qui sont venus qui se sont dit « mais il est complètement givré » parce qu'il y avait des gens sur la planète. Ézéchiel, il est complètement givré. Il y a des eaux, c'est la réalité, mais lui, il est en train de dire qu'il y aura une armée. Lui, il continue à parler à ses eaux. Moi, je crois vraiment que il y a des gens qui ont dû penser ça, mais il a continué, il n'a pas lâché. Il dit « je continuais à prophétiser comme Dieu me l'avait demandé. Encore et encore et encore et encore. Il n'a pas lâché. Et des fois, nous, peut-être pas nous ici, mais dans nos pays occidentaux, on a tellement l'habitude d'avoir tout de suite, tout. Ok ? Je veux une pizza, je donne un coup de fil, 10 minutes après, j'ai la pizza à la maison. Les enfants, ils veulent un iPhone. Quelques semaines après, ils ont... je plaisante. C'est juste que... je suis pareil pour certaines choses. C'est juste qu'on a l'habitude d'avoir tout de suite. C'est notre culture, elle est comme ça. La culture du royaume, elle n'est pas comme ça. Il faut aussi qu'on réalise, on est dans cette culture, mais on est du royaume. On doit marcher avec la culture du royaume de Dieu. Avec une intelligence qui est renouvelée, qui croit plus ce que Dieu dit que ce qu'il y a devant nos yeux. Amen. Donc, on le veut tout de suite, c'est notre culture. Et si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse tomber. Et on râle. Et on râle. Et on accuse l'autre qui aurait dû le faire. Non, on laisse tomber. Ça, c'est vraiment une culture, la culture, notre culture occidentale. On doit vraiment avoir cette culture du royaume en nous. Où on ne laisse pas tomber, ce n'est pas de l'instantané. Mais comme Ézéchiel, on continue à prophétiser le contraire de la réalité. La vie au lieu de la mort. Et si tu crois les promesses de Dieu dans ton cœur, si tu crois que les promesses de Dieu sont la vérité, tu ne vas jamais, 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 jamais abandonner. Parce que dans ta tête, la vérité, ce n'est pas ce que tu vois. Dans ta tête, tu vois... La vérité, c'est pas ce que tu vois. La vérité, c'est ce que Dieu dit de la situation. C'est que Dieu dit, tu ne manqueras de rien. C'est que Dieu dit, je t'ai guéri il y a 2000 ans. Alors on continue. C'est comme pour la guérison. On pourrait dire, on arrête de prier parce qu'on prie pour les gens et tous les malades ne sont pas guéris. Mais est-ce qu'on va s'arrêter ? Non. On va continuer, on va creuser. On doit creuser, on doit réouvrir les puits. On doit taper. Il y a des fois, il y a des murs qui bloquent. Ça veut dire qu'on va devoir taper. Peut-être qu'on va taper 9 fois si on s'arrête à la 9e. Le mur, il ne va pas tomber. On aurait donné un coup de plus, le mur, il serait tombé. Peut-être qu'on va diguer. On va essayer de creuser le puits de la guérison ou d'autres choses. Et puis, on va s'arrêter à un moment donné parce qu'on va dire, « Ok, je crois plus ce que je vois, la guérison, elle ne vient pas, que Dieu qui dit qu'il guérit tous les malades. » Mais on s'arrête. Et vraiment, notre intelligence doit être renouvelée. On doit devenir fanatique. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu fanatique quand je parle de la guérison, mais je crois la sagesse de Dieu est folie aux yeux des hommes, pour la sagesse des hommes. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dedans, je ne vais pas sortir de mon message. Et donc Ézéchiel, il a continué. Je voudrais juste prendre 5 minutes, et parce que cette semaine, j'ai écouté quelque chose et ça m'a drôlement marqué. Ça a un petit rapport avec ça. Et ça se passe dans Jean 11, je crois. Et c'est au sujet de la résurrection de Lazare. Et ça m'a drôlement impacté, parce que dans ce passage, il y a un des plus courts versets de la Bible où il est écrit « Jésus pleura ». Et c'est très intéressant. Donc je vais essayer de condenser. Et ce qui se passe, c'est que Jésus, il avait une famille à Béthanie qui était ses amis. Je crois même que Lazare était peut-être son meilleur ami. Et on voit dans tous les trajets de Jésus avec les apôtres, très souvent, quand il allait quelque part, il revenait à Béthanie. Parce qu'il avait ses amis qui habitaient là. Marthe, Marie et Lazare, cette fratrie. Et puis un jour, Jésus était parti, il n'était pas là. Je crois que c'était une famille aussi, pas juste qu'il aimait, mais vous savez que Jésus devait manger, les apôtres devaient manger, ils devaient laver leurs habits. Je crois que c'était vraiment des gens qui étaient là et qui l'aimaient et qui le servaient, qui le recevaient, qui le logeaient avec les apôtres, qui préparaient les provisions pour repartir pour leur mission trip. Et il les aimait vraiment beaucoup. Et Jésus part. Et puis Lazare devient malade. Vous connaissez l'histoire ? Et qu'est-ce qu'ils font ? Prennent leur téléphone portable, ils envoient un SMS à Jésus. Jésus, notre ami, Lazare est grièvement malade, est-ce que tu peux revenir ? Et il est dit que Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne revient pas, il prend son téléphone portable, il envoie un SMS et il dit, cette maladie, donc c'est une promesse, ok, c'est la parole de Jésus, cette maladie n'est pas pour la mort. Donc Jésus ne vient pas. Jésus continue ses affaires. Les jours passent et Lazare meurt. Et Jésus n'est toujours pas revenu. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Marthe et Marie ? La déception. C'est la grosse déception. C'est, ok, on avait des... Nous, on a tout donné pour Jésus. Il aime Lazare, c'est son ami, c'est son plus grand ami. Et il ne s'est même pas déplacé. Mais... Et ils sont vraiment déçus et ils rentrent dans l'offense et dans la déception. Et Jésus, lui, est-ce que... Jésus, il est loin et il fait ses affaires. Et puis, elles vont faire tout simplement ce que la réalité de leur culture va leur dire de faire. Elles avaient deux choix. Alors, je ne juge pas, ok ? On imagine hein, ce qui s'est passé. Soit elles disaient, Jésus a donné une promesse, il l'a envoyée par SMS, c'est sa parole. La promesse, c'est qu'il dort. Ok ? Jésus, il dit, il dort. Il ne dit pas, il est mort. Jésus, il dit, il dort. Cette maladie n'est pas pour la mort. Et elles ont devant elles la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est le corps de Lazare qui est là et qui est mort. Donc, elles sont déçues. Ok, Jésus n'a pas répondu. Elles font exactement ce que la culture juive dit de faire. Je crois qu'il faut vite enterrer le mort. Avant le coucher du soleil, il faut l'enrouler, il faut l'oindre d'huile. Et elles le mettent dans le tombeau. Et elles... Et puis il roule une pierre. C'est comme ça que ça se faisait. Et Jésus, lui, il est toujours dans ses affaires. Et puis, est-ce que vous croyez que Jésus était inquiet ? Il avait dit quoi, Jésus ? Il avait dit, il dort. Cette maladie n'est pas pour la mort. C'est le message qu'il leur avait envoyé. C'est la vérité. Il arrive, et puis il rentre dans le village, et il dit, ok, il va, il tape chez ses amis. Ok, Lazare, il est où ? Pour lui, il dormait. Il venait le réveiller. Ah ben, on va t'emmener. Vous croyez qu'elles ont bien accueilli Jésus ? Je crois qu'elles l'ont accueilli avec les boules. Avec, ok, c'est maintenant que tu arrives. On t'a tout donné, mais pour une fois qu'on attendait quelque chose de toi. Et on a entendu tous tes miracles. On a entendu, tu es venu nous raconter tous les miracles que tu as fait, les autres résurrections et les guérisons. Et pour nous, tu n'as rien fait, Jésus. Alors elle l'emmène. Et Jésus, il va. Et quand il arrive devant le tombeau, il pleure. Est-ce que vous... Alors, moi, j'ai toujours cru que Jésus, il était sensible. Il avait pleuré parce que son cœur était touché, parce que Lazare était mort. Jésus, il pleurait pas parce que Lazare était mort. Il avait dit, il dort. Jésus, il pleurait parce que ses amis avaient mis la promesse que Jésus avait donnée dans la tombe, dans le tombeau. Ils avaient enterré la promesse que Jésus avait donnée. Ses plus chers amis, à qui il avait... tout partagé, qui le connaissait, ses amis ont enterré la promesse, n'ont pas fait confiance à Jésus. Et Jésus a pleuré parce que tout simplement son cœur était touché. Parce qu'ils ont pris la promesse qu'il avait faite à la légère et qu'ils l'ont mise au tombeau. La suite, on la connaît. Jésus est plus grand. Jésus a appelé Lazare. Lazare sort et qu'est-ce qui s'est passé ? Lazare est sorti, Lazare est ressuscité. Mais ça m'a touchée. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Jésus a pleuré parce qu'elles ont enterré, ses amis ne l'ont pas cru. Elles ont enterré la promesse, leur futur, dans la tombe. Et ce matin, je voudrais juste dire, et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Des promesses, des prophéties, de ce que Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu en as fait ? Est-ce que tu les as mises ? Est-ce que tes rêves, tes grandes visions, tu les as prises et tu les as mises dans la tombe parce que Jésus était en retard ? Ou que tu as cru que Jésus était en retard ? Parce que Jésus, il n'était pas en retard, mais elles ont cru qu'il arrivait trop tard. Il ne pouvait pas sauver la situation. Qu'est-ce que tu as fait ? Donc, je veux vraiment que le Saint-Esprit puisse nous toucher. Et qu'est-ce que tu as fait ? Des promesses que Dieu t'a données, des paroles que Dieu a parlées. Est-ce que tu les as enterrées déjà ? Donc on va continuer. Donc si tu crois dans ton mariage et que ça ne va pas, tu ne vas pas abandonner. Si tu es meurtri, si tu es brisé, tu ne vas jamais abandonner. Si tu crois Jésus, n'abandonne pas. Si tu crois au réveil en France, est-ce que vous croyez au réveil en France ? On ne va pas abandonner. Si tu crois que tous les malades, Jésus a dit, il guérissait tous les malades. Les gens qui sont malades vont être guéris, tu ne vas pas, tu ne vas jamais abandonner. Même si ça tarde, même si toi tu t'étais fait le plan en 2014, je vais voir tant de choses, tu ne vas pas abandonner. Parce que Jésus a fait une promesse, il avait envoyé par son SMS, il dort, il dort, c'est pas pour la mort. Et Jésus, il t'a dit des choses, n'abandonne pas, reprends-les, ressors-les. Si elles ont été enterrées, va avec Jésus, reprends-les, ressors-les, et redonne-lui, et crois, et prophétise sur ces choses, appelle-les à la vie. Et aujourd'hui, la France et l'Europe peuvent ressembler à un tas d'os sec. Je ne crois pas qu'elles ressemblent à un tas d'os sec. Pour moi, il y a plus que ça. Mais ça peut ressembler. Okay, quand on voit notre gouvernement, quand on voit tout ce qui se passe, ça peut, on peut dire c'est un tas d'os sec. Qu'est-ce qui va sortir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Mais si toi, si moi, si nous, on est prêts à se lever et à parler et à commencer à prophétiser, pas le naturel, pas le culturel, pas ce que les autres disent, mais en accord avec la parole de Dieu, ce que Dieu dit, les promesses de Dieu, la manière de penser de Dieu sur ces situations, alors on va voir notre pays revenir à la vie et entrer dans sa destinée. Amen. Vous le croyez ? Donc, on a besoin de parler l'opposé de la réalité et ça va venir à l'existence. Alors, des fois, vraiment, il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Mais Jésus a fait des choses qui ont pu sembler aux pharisiens folles, aux religieux, complètement ridicules et timbrées. Et Jésus l'a fait, Jésus a été. Et la sagesse de Dieu est folie pour les hommes et la sagesse des hommes est folie pour Dieu. Donc parle la vie et commence à parler, commence à prophétiser ce que tu veux que la situation soit. Ce que Dieu dit sur cette situation. Ok ? Alors des fois on peut dire, mais oui, mais je ne peux pas commencer à parler la guérison parce que Jésus ne m'a pas dit qu'il allait guérir. Prends la parole, qu'est-ce qu'elle dit la parole ? Jésus guérissait tous les malades. Est-ce que c'était pile ou face ? Un jour il guérit, il a envie. Un jour il ne guérit pas, il n'a pas envie. Quand sur la croix il a dit qu'il a porté toutes nos maladies et toutes nos meurtrissures pour qu'on soit guéri. Ça a été fait. Et il y a des promesses. La Bible, elle est pleine de promesses. Elle est pleine de promesses. Commence à parler la parole de Dieu. Si tu n'as pas une parole inspirée, prends la parole. Commence à la parler. Commence à la parler sur tes enfants. Commence à la parler dans ta situation. Commence à la parler où tu dois la parler. Où il n'y a plus d'espoir. Où ça paraît sec et mort. Et donc Ézéchiel, il l'a fait, et il l'a fait, et il a parlé. Peut-être que ça a duré 10 jours, peut-être que ça a duré 4 mois, ça ne nous est pas dit. Peut-être que ça a duré 10 ans. Mais il l'a parlé, il l'a parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il l'a parlé jusqu'à ce qu'il commence, au verset 7, qu'il commence à entendre un frémissement. Tant qu'il n'a pas entendu un frémissement, est-ce qu'il s'est arrêté ? Non, jusqu'à ce qu'il commence à entendre un frémissement. Et là, ce frémissement, c'était les eaux, qui étaient un énorme tas de toutes sortes, qui commençaient à s'approcher les uns des autres. Le miracle commençait à se produire. Les eaux ont commencé à s'approcher. Et il a entendu un frémissement et au verset 8, il commence à voir les eaux secs à revenir ensemble, des nerfs sur eux, la chair, la peau. Et est-ce qu'il s'est arrêté de prophétiser dans cette étape ? Non, il a prophétisé, il a continué à parler aux os, il a continué à parler que la chair se fasse, que les nerfs viennent, il a continué. Et quand toutes ces choses se sont remises ensemble, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a regardé, mais il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui manquait ? il n'y avait point d'esprit en eux. Alors, est-ce qu'il s'est arrêté ou est-ce qu'il a dit ça a échoué ? Non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Au verset 8. Il a dit, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, sur ces eaux, sur ces morts, parce que c'était des corps morts maintenant, et qu'ils revivent. Et alors qu'ils prophétisaient, qu'ils parlaient, l'esprit vint en eux, ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et c'était une très, très et là, il a vu ce que c'était, c'était une très, très grande armée puissante. Donc commence, crois-le, prophétise, parle, et tu vas commencer à entendre, et tu vas ensuite voir ton miracle venir. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas combien le processus, combien de temps il dure. Mais dans la Bible, souvent, moi, j'aime la Bible et dans toutes les histoires, pas dans toutes, mais souvent dans les histoires, j'aurais aimé que Jésus ou que Dieu rajoute le temps que ça a pris. Alors des fois, il dit 40 ans et tout, hein. Mais même quand il est dit que pendant 40 ans, tant de temps, ils ont fait ci, pour nous, c'est comme si c'était un jour quand on le lit, ok ? Mais très souvent, ce n'est pas spécifié, mais je suis convaincue que Ézéchiel, il était comme nous. Ça ne s'est pas fait en un instant. Il y a des choses qui vont se faire en un instant, mais peut-être que ça a pris des années. Mais il a vu son miracle. Et si on fait, si on suit ces étapes, tu vas voir ton miracle. N'abandonne pas. Tu vas voir ton miracle arriver. Tu vas voir ta situation changer. Alors, vous avez vu l'ordre. L'ordre, c'est croire. Donc, il a cru. Tu dois croire. Que tu dois croire quoi ? Ouais. Et tu dois croire pas que Dieu peut juste le faire, mais que Dieu, tu dois croire Dieu plus que les circonstances. Ok, c'est différent, hein, de croire que Dieu peut le faire et de croire Dieu plus que la réalité, que tes circonstances, c'est différent. Ensuite, une fois que tu crois Dieu plus que tout et ses promesses, qu'est-ce que tu fais ? Tu commences à prophétiser, à parler sur les circonstances. Troisième étape, une fois qu'on a cru et qu'on a prophétisé, qu'est-ce qui se passe ? On... Ouais. Et on va finir par entendre. Et une fois qu'on entend, qu'est-ce qui se passe ? On voit, mais il ne s'est pas arrêté de prophétiser durant tout le processus, ok ? Il ne s'est pas arrêté de parler la vérité, jusqu'à ce qu'il voit ces eaux qui sont devenues, quoi ? Une grande armée. Une grande armée. Des eaux morts qui sont devenues une grande armée. Et c'était la maison d'Israël. Il y a un petit hic avec nous, français, alors je peux dire occidentaux, moi je préfère mettre tout, hein, pas juste français, c'est que nous, on veut le contraire. Ok ? Qu'est-ce qu'on veut, nous ? On veut voir. Ensuite, on veut voir. Ensuite, on veut entendre. Ensuite, on est prêt à parler, à prophétiser. Et enfin, je vais croire. En fait, on est comme Thomas. Thomas, il a dit, je vois et je crois. Et Jésus, il dit quoi ? Jésus, il dit, je te dis que si tu verra. Thomas, il dit, je veux voir pour croire. Jésus, il dit, tu crois et tu verras. Jésus, et qui c'est qui a raison ? Et Marthe et Marie, elles ont fait pareil. Marthe et Marie, elles ont marché par la vue. Ok ? Elles ont marché par la vue. Et pas sur la promesse que Jésus leur avait envoyée. Personnelle. C'est pas pour la mort, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le garder à la maison. Je ne serai pas en retard. Je vais arriver, je suis maître des circonstances. Je vous ai fait une promesse, je ne mens pas. Je ne mens pas. Mais elles ont vu, et de ce qu'elles ont vu, elles ont cru. Au lieu de croire, et du coup, ce qu'elle voit. On le regarde pas trop, oui, on le voit, mais je crois à la promesse. Et je crois vraiment que Dieu doit, on doit laisser Dieu renouveler notre intelligence et qu'on ait la mentalité du royaume, qu'on soit reprogrammé avec la parole de Dieu. C'est super, on a eu un enseignement la semaine dernière, c'est super vraiment qu'on soit des hommes et des femmes de la parole de Dieu, pour que quand les circonstances arrivent, ok, c'est la vérité, mais Dieu dit, je sais ce que Dieu dit, et Dieu me dit ça. Et des fois, Dieu va juste nous le rappeler, on connaît la parole, et il va nous le rappeler par un verset, il va nous rappeler la parole, des fois, il va utiliser quelqu'un, des fois, il va nous donner un rêve, des fois, c'est dans la Bible qu'on va le trouver, mais ok, je crois Dieu. Et j'aligne le reste à ce qu'il dit. Donc Dieu n'est pas français. Il n'est pas américain non plus. Il est d'un autre royaume. Mais on fait partie, on appartient à ce royaume. Un royaume supérieur avec une pensée qui est supérieure, qui est au-dessus de la pensée et de notre culture et de du royaume terrestre. Et son ordre est différent. Donc si tu veux voir la vie revenir, si tu veux voir ta situation changer, là où il y a la mort ou la destruction, là où il y a la maladie, là où c'est fermé, là où c'est bloqué, là où il semble ne plus avoir d'espoir, tu as besoin, on a besoin de commencer à travailler à la manière de Dieu. On doit commencer avec le formatage. On doit commencer avec les clés et les règles de Dieu dans le bon ordre. Souvent, on n'a pas vu ou on n'a pas vu parce qu'on a commencé à l'inverse. OK ? Mais on doit commencer dans l'ordre de Dieu. Je crois, je prophétise, je vais entendre et je vais voir mon miracle. Amen. Voilà, je vais arrêter là. Peut-être qu'on peut fermer nos yeux 2 minutes et juste inviter le Saint-Esprit à venir. Vous pouvez fermer vos yeux, ça ne va pas être long. Mais je veux juste dire que ce matin, il y a de l'espoir. Et que ça peut changer. Et que même si tu as mis, comme Marthe et Marie, qui ont mis Lazare dans le tombeau, même si tu as mis ton espérance, même si ta déception a réduit la taille de Dieu, ta déception, parce que tu n'as pas vu, parce que ce n'est pas arrivé, parce que ça tarde, ça a réduit la parole de ton Dieu, ça a réduit la puissance de ton Dieu dans ta vie, il y a de l'espoir, ça peut changer. Et Dieu veut changer les choses, Dieu veut intervenir dans ta situation. Donc si tu crois que Dieu peut changer cette situation dans ta vie, alors je voudrais vraiment t'inviter à te lever à ta place. Seulement si tu crois, c'est la première étape. Et s'il y a de la déception dans ton cœur, s'il y a de la colère envers Dieu, s'il y a de la déception, s'il y a de l'incrédulité, tu peux demander pardon à Jésus. Tu peux lui demander pardon. Je ne crois pas que Marthe et Marie aient demandé pardon à Jésus, mais Jésus, il a accompli ce qu'il avait dit. Il a été au bout de sa parole. Il n'a pas dit, vous avez failli, vous avez eu de l'incrédulité, alors je vais laisser Lazare dans la tombe. Il n'est pas dit qu'elles ont demandé pardon, mais à mon avis, quand elles ont vu Jésus, en tout cas, je vous invite à lui demander pardon pour votre incrédulité, pour avoir abandonné, pour avoir dit c'est fini. Pour avoir réduit Dieu à la taille de votre déception. Et tu peux dire à Dieu, je te crois. Je crois ta promesse, je crois la promesse que tu m'as envoyée, comme tu l'as envoyée à Marthe et Marie, les promesses que tu m'as données. Les rêves, les visions. Je te crois. et je crois que ma situation peut changer. Je crois qu'elle peut venir à la vie. Et maintenant que tu crois, commence à prophétiser l'opposé. Commence à parler les promesses que Dieu t'a données. Commence à parler ses promesses, sa parole sur la réalité de ta situation maintenant. Commence à prophétiser. Demande pas à Dieu de le faire, commence à prophétiser. Parle. Parle les promesses, parle la vérité, parle sa parole. Parle. Tu peux le faire à mi-voix, parle. Sois hardi, parle. Parle. Prophétise. Tu commences maintenant, mais ne t'arrête pas. Quand tu vas rentrer chez toi, continue, continue, continue. Continue pour toi, pour les autres, pour ta famille. Continue. Prophétise et la vie, l'espérance va revenir. Quand tu parles la vérité, quand tu parles les promesses de Dieu sur ta situation, la vie, l'espérance, la vision, la perspective de Dieu va revenir sur ta situation. Tu vas t'élever, et tu vas commencer à voir la situation différente, comme Dieu la voit. Crois et parle, prophétise. Et maintenant, appelle l'Esprit à venir. Dis-lui, Esprit, viens des quatre vents et souffle sur mes ossements secs. Souffle sur ma situation. Tu peux nommer ta situation ou tes situations. Et souffle. Et que ces eaux reviennent à la vie. Appelle la vie. Appelle l'esprit de vie. Esprit, souffle des quatre vents et que ses eaux revivent. Et continue et tu vas commencer à entendre et tu vas commencer à voir et tu vas voir la manifestation de ce miracle. Cette situation, elle va changer, elle va être transformée. Comme Lazare est revenu. Il dormait comme Lazare est sorti de la tombe. Ta situation, elle va être changée, transformée. Elle va revenir à la vie. Et chasse la déception, chasse le découragement, chasse l'incrédulité, les pensées qui viennent et qui te disent « mais ça n'a pas marché », prends-les, jette-les. Prends-les, jette-les et prophétise, prophétise, parle, parle, jour après jour, prophétise, prophétise. Si vous êtes un couple, je vous demande que le mari lâche pas sa femme quand elle se décourage. Prophétise, on prophétise, on parle la vie et que ce soit réciproque, qu'on s'encourage. Prophétise, parle, ne parle pas ce que c'est, parle la vérité de Dieu, parle les promesses de Dieu, parle la vérité. Parle jusqu'à ce qu'on voie et qu'on se réjouisse. Jusqu'à ce qu'on voie cette armée, ces eaux se transformer et devenir une armée puissante. Et Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais ce matin. Merci de continuer, merci de sceller les engagements. Merci pour ton alliance, Jésus, parce que quand tu fais une promesse, ta parole, quand tu as fait des promesses, tu as aussi fait alliance dans tes promesses. Ce n'est pas juste que tu dis « je vais faire ci », mais tu fais une alliance. Et merci pour cette alliance encore qu'il y a dans tes promesses. Merci pour cette alliance qu'il y a avec chacun d'entre nous. Et je prie qu'on ressorte d'ici dans cette alliance avec toi et que ça produise, ça nous change et qu'on commence à croire, prophétiser. Puis on va entendre et on va voir le miracle se passer. Et je veux vraiment sceller maintenant ce que tu fais, Saint-Esprit, sur la terre et dans le ciel, par ton sang. Et merci pour ton encouragement. Merci aussi de décharger les épaules. Merci d'enlever les boulets. Merci d'enlever que les mensonges soient brisés sur les vies, dans le nom de Jésus. Que l'incrédulité, la déception, les offenses, les fardeaux, la fatigue que ça a entraîné, que tu viennes, Jésus, et que tu laves chacun maintenant. que tu laves et que chacun reparte léger à sauter sur les montagnes comme une biche, même si la situation est en cours de changement, mais qu'il y ait cette légèreté dans le nom de Jésus.